Bon, à l'époque, j'avais un peu improvisé, donc merci de me donner une séance de rattrapage qui s'articule assez bien avec ce que vient de dire Pierre Laury, aussi ce que Muriel nous a présenté. Le programme annonce 17e, 18e, mais en fait, je vais parler aussi du 19e et du 21e, pour revenir à ce que disait Jean-Noël. Donc, je crois que pour ces périodes récentes, il y a beaucoup de choses qui rejoignent ce qui a été dit, mais je crois qu'il y a deux aspects qu'il ne faut pas oublier. D'abord, le rôle de l'érudition occidentale, il faut faire un détour par l'Occident et par la conception des hiéroglosses en Occident. Et la deuxième chose, un autre détour par l'Occident, c'est le lien entre la langue et la nation. Donc, d'abord, la première chose, l'arabe hiéroglosse et l'arabe vulgaire. Alors, Pierre nous a parlé de la place de l'arabe, j'allais dire la sacralisation, mais il ne faut pas dire la sacralisation de l'arabe dans la religion islamique. Et ça a évidemment eu des conséquences sur l'usage de l'arabe du côté des chrétiens. Je crois que tu n'as pas mentionné le hijaz, donc l'idée de l'inimitabilité du Coran. Donc l'idée qu'on ne peut pas, que c'est la perfection, et dans la controverse avec les chrétiens, ça a été utilisé aussi comme un argument. Le miracle accompli dans l'islam, c'est le miracle de la langue arabe, la perfection de la langue arabe, c'est le miracle par rapport au miracle que les chrétiens mettaient constamment en avant de leur côté. Alors cette prégnance du Coran et de sa langue a évidemment influencé l'usage chrétien de l'arabe dès l'origine. Par exemple, dans l'usage des noms de Dieu employés par les chrétiens. À Alep, au début du XVIIe siècle, il y a un riche marchand chrétien qui construit une magnifique maison dont le salon maintenant est conservé au musée islamique de Berlin. Et si on rentre dans le salon, il y a une inscription au-dessus de la porte. Bismillah el-Khalik el-Natik el-Hay, au nom de Dieu le créateur, le parlant, le vivant. Alors évidemment, c'est une formule qui évoque la Trinité, mais c'est aussi une formule qui n'est pas choquante, je crois. Ce sont des noms de Dieu qui ne sont pas choquants pour les musulmans. Est-ce que ce marchand avait une stratégie du double jeu? Eh bien, je ne pense pas, parce que la même formule se retrouve dans des manuscrits alépins conservés dans les monastères du Liban. Donc c'était une formule qui était vraiment intériorisée dans le christianisme arabe, du moins à Alep. Pour donner un autre exemple, lorsqu'un chrétien prête serment devant un tribunal, devant la marka Macharia à Alep, devant un tribunal du Qadi à Alep, il prête serment sur l'évangile, mais avec une formule qui dit « El Injil, El Adi Allahu, Anzalahu Allah Isa ». Donc, que Dieu a fait descendre sur Isa. Donc, c'est une conception théologique musulmane qui s'applique et que le chrétien dit lorsqu'il prête serment. Pour donner encore un autre exemple dans le même sens, l'archevêque d'Alep, patriarche démissionnaire, puis futur patriarche Melkite Athanas d'Abbas, en 1706, imprime un évangile arabe à Alep. Et il recourt à un vocabulaire islamique généralement réservé au Coran pour parler de l'évangile. Il évoque Tanzil, donc la descente de la révélation. Il appelle le volume, l'évangile Mushaf Sharif, le volume noble, une terminologie typiquement réservée au Coran. Et il emploie le terme spécialisé de Tilawa pour désigner la récitation des évangiles. Donc on voit là l'influence de l'islam sur la conception même de la parole chez les chrétiens d'Alep. Il traduit aussi du grec, le même Athanas traduit du grec en arabe, le diwan du prince roumain Dimitri Cantemir, et il utilise dans cette traduction une certaine proportion de terminologie d'influence islamique. Donc il y a une perméabilité terminologique chez les chrétiens, et ça va même au-delà de la perméabilité, il y a, disons, la conception de la révélation musulmane a influencé la conception de la révélation et du texte sacré chez les chrétiens. Mais lorsque les Occidentaux se sont mis à étudier l'arabe au XVIe siècle, ils n'ont pas tout de suite compris cette situation. L'étude de l'arabe s'inscrivait dans le cadre des études bibliques, Il a d'abord été considéré comme une langue dérivant de l'hébreu et était étudié à partir de l'hébreu en même temps que le syriaque. Et les textes qui intéressaient alors les savants étaient des textes liés à la tradition chrétienne. L'hébreu avait d'abord suscité l'engouement des savants, mais la question de l'authenticité des sources de l'Ancien et du Nouveau Testament les avait amenés à s'intéresser aux versions syriaques puis arabes des Écritures. Et à partir du début du XVIIe siècle, le rapport entre la langue arabe et l'islam ne pouvait plus être ignoré. En 1630, Thomas Erpenius, le premier titulaire de la chaire d'arabe à Leiden, dans son oratio introductive, assurait que la connaissance de la langue arabe aidait à éclairer le sens de l'hébreu dans le texte biblique, mais Erpenius s'opposait à l'idée qu'il fallait maîtriser préalablement l'hébreu pour apprendre l'arabe. Il affirmait au contraire l'autonomie de celle-ci par rapport à l'hébreu et montrait la nécessité de recourir à des sources islamiques et à rapprocher l'arabe du turc. Et à partir d'Erpenius, le recours au Coran et aux grammairiens arabes du Moyen-Âge dans les études linguistiques arabes s'affirme. Au point qu'à partir du XVIIIe siècle, la littérature arabe chrétienne est exclue des études arabes. Hein, et dans Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, il commence par dire la littérature juive et chrétienne en arabe ne fait pas partie de la littérature arabe. Il l'exclut. Donc cela ne se fait pas sans poser quand même un certain nombre de problèmes, ce lien avec l'islam. Notamment aux arabisants catholiques, qui entendaient défendre le caractère chrétien de la langue arabe en usage chez les chrétiens orientaux. Alors il y a une fameuse histoire, c'est l'histoire des plombs de Grenade, les laminas granatenses. Au Sacramento de Grenade, on aurait trouvé des textes arabes très anciens. En fait, il s'agit d'un texte arabe forgé par des morisques vers 1580 et qui a été donné à expertiser à Rome vers le milieu du XVIIe siècle. Les chrétiens orientaux en poste à Rome et les autres arabisants de la Curie n'ont pas eu de mal à démasquer le faux, notamment en montrant la présence d'une terminologie islamique et d'une ignorance de la terminologie chrétienne. Le fameux Ludovico Maracci, qui en est à ses débuts, mais qui va être célèbre par la suite parce qu'il va faire une traduction du Coran qui va faire autorité au XVIIIe siècle. Donc Ludovico Maracci s'entraîne à la terminologie islamique en rendant un rapport à propos de ces plombs de Grenade pour démontrer l'usage terminologique islamique dans ce texte. Par exemple, Anzala, il le traduit par « pro revelare seu divinitus mittere sacros libros », donc dans le sens vraiment islamique de Anzala. Et le terme musulman « hawariyun » qui désigne est indiqué clairement pour désigner les 12 apôtres chrétiens. Dans les textes chrétiens, cette terminologie, on ne l'utilise pas. On pourrait donner d'autres exemples. Par exemple, dans ces plombs de Grenade, pour dire l'autel dans l'église, il utilise le terme « mihrab ». Alors qu'il y a le mot chrétien « heikel ». Donc il y a des exemples comme ça. Mais un autre expert de la Curie, c'est Abraham Ekelensis, arabisant d'origine maronite, qui fait une carrière entre la France et Rome, qui a enseigné d'ailleurs ici, en tant que spécialiste de l'arabe et du syriaque. Il défendait la valeur des connaissances scientifiques conservées dans la langue arabe et revendiquait donc pour l'arabe un rang équivalent au grec et au latin. Il est venu au Collège de France avec l'idée de placer l'arabe au même niveau que le grec et le latin comme source de la civilisation occidentale. Mais il avait du mal à reconnaître à l'islam la place qui lui revenait. Alors il a enseigné l'arabe avec un petit manuel de savoir-vivre de Adab qu'il avait traduit et publié en traduction, dans lequel, c'est à noter, il a conservé la bismillah au début, et il a conservé, chaque fois que le nom du prophète apparaît, il a conservé la formule vénération, bénédiction sur lui, donc salam alayhi wa salam. Il n'a pas été directement associé à l'expertise des plombs de Grenade, et il a fait un dictionnaire, mais Maracci était son disciple, hein, Maracci a appris l'arabe avec lui. Mais dans son dictionnaire arabe latin inédit, Ekelensis christianise la langue arabe en émettant toute la terminologie islamique spécifique. Par exemple, à la racine qara'a, le dérivé Quran est indiqué comme équivalent de kira'a dans le sens simplement de lectio, pas une version du sens arabe du terme, du sens musulman du terme. Ar-Rasoul, donc il le traduit par apostolus, mais sans faire allusion au Rasoul musulman et sans utiliser la terminologie islamique que j'ai donnée tout à l'heure pour apôtre. Nabi, prophéta, aucune allusion non plus à l'islam. Le verbe nazala dont j'ai parlé est traduit par descendere fecit, mais anzala dans le même sens et avec sa spécificité islamique de révéler est totalement ignoré. Donc voilà un peu voilà comment il joue avec ça. Et dans d'autres textes de lui, il dit que ce n'est pas parce que le Coran utilise une terminologie chrétienne qu'il y a une identité entre la foi musulmane et la foi chrétienne, les musulmans ayant déformé le sens des mots. Un bon exemple, c'est « Ruh Allah » pour désigner le Christ dans le Coran. Hein, donc il dit que les musulmans imitent les chrétiens mais comprennent mal les concepts chrétiens et les déforment. Donc voilà un peu ce contexte. Une autre question qui se pose à partir du XVIIe siècle, c'est qu'on découvre que cet arabe enseigné, donc qui est en gros la langue du Coran, n'est pas la langue employée couramment, à l'oral comme à l'écrit dans les pays arabes. C'est une langue réservée à la prière et aux sciences liées au Coran, donc pratiquée par une petite élite. Dans les textes du XVIIe et du XVIIIe siècle, les auteurs arabes, en fait, connaissent souvent cette langue, mais écrivent aussi dans une autre langue, dans une langue beaucoup plus vernaculaire, donc dans le amier, qui est enfin quelque chose entre cet arabe coranique et l'arabe parlé. Hein. C'est ça la langue dans laquelle beaucoup de textes sont écrits à cette époque-là. Et donc, en Europe, on découvre ça. On découvre qu'il n'y a pas que l'arabe coranique, que l'arabe, disons, académique. Et ce sont les missionnaires latins en Orient qui prennent conscience, dans la première moitié du XVIIe siècle, que cette langue savante enseignée en Europe était éloignée de la langue parlée et pratiquée en Orient. Et c'est fort de cette expérience qu'ils se mettent à rédiger les premiers manuels d'arabe vulgaire. Donc la distinction langue savante, langue sacrée, langue vulgaire est renforcée ou systématisée par le biais de la pédagogie occidentale de l'arabe, au même titre que ce que l'on peut observer au même moment dans les autres langues. Par exemple, la distinction entre grec classique, grec vulgaire se met en place au même moment. Les méritaristes arméniens répandent pour leur compte un arménien classique modernisé, éloigné des langues parlées qu'ils utilisent par ailleurs dans leur prosélytisme, dans leur prédication. Voilà, cette distinction classique-vulgaire a évidemment à voir avec celle que l'Église catholique a introduite entre le latin et les langues vernaculaires. Et si une célébration religieuse devait avoir lieu en arabe, en grec ou en arménien, elle devait l'être dans la langue classique ou noble, pas dans la langue vulgaire, bien que celle-ci fût nécessaire pour instruire le peuple. Donc la diglossie classique en arabe aujourd'hui entre Fossa et Amiens n'est pas une invention des catholiques, mais ceux-ci y ont contribué et l'ont sans doute renforcé et lui ont donné un autre sens. Alors deuxième question, l'arabe ou le syriaque. Dans les églises de tradition syriaque, une autre question se posait au XVIIe siècle. Quelle place faire au syriaque par rapport à l'arabe, sachant que la première langue était désormais quasiment ignorée, même du clergé. Alors, les Melkites ont commencé à abandonner le syriaque au profit de l'arabe dans leur liturgie à partir du Xe siècle, et le syriaque disparaît complètement au XVIIe. Dans la première moitié du XVIIe, disons, oui, à partir du XVIIe, tous les ecclésiastiques orientaux, plus ou moins, sont sur la position de l'humanisme occidental. Nos textes sont corrompus, les manuscrits sont corrompus, nous devons faire des recherches pour retourner à nos véritables sources, etc. Donc, par exemple, Malathius Carmé, le patriarche melkite de Damas, dit « Avec moi, l'humble Mélas, j'ai... Alors moi, l'humble Mélas, j'ai examiné les manuscrits arabes et syriaques, je les ai confrontés avec l'original grec et araméen, dit-il, et je les ai trouvés pleins de fautes et de variantes. Je les ai corrigés de mon mieux sur le grec et je les ai traduits, en quelque sorte, de nouveau en arabe, avec plein de fatigue. » On sait en fait qu'il a utilisé des textes liturgiques grecs publiés à Venise. C'était plus simple que d'aller collationner directement des manuscrits en grec. Bon, chez les Maronites, il est question aussi de la place de l'arabe dans la célébration liturgique. La discussion oppose les moines originaires d'Alep aux autres ecclésiastiques originaires du Mont Liban. C'est le syriaque qui l'emporte finalement, aussi parce que c'est ce que Rome souhaite, mais une place est faite à l'arabe dans le paraliturgique. Les lectures, les prières pour le peuple, on a vu tout à l'heure les psaumes traduits en sogdien, etc. Donc tous ces textes-là sont en arabe, en fait, dans l'église maronite, et le paraliturgique prend de plus en plus de place. Donc il y a la question aussi de l'usage de l'arabe écrit en garchouni. Il se trouve qu'on observe un développement de l'écriture de l'arabe en alphabet syriaque entre le XVIIe et le XIXe siècle. Alors, Muriel en a déjà parlé un peu, il est sûr que c'est une question identitaire. Ça permet aux maronites de se distinguer des musulmans, mais ça permet aussi aux maronites de se distinguer des autres chrétiens qui utilisent la langue arabe, en particulier des melkites avec lesquels ils sont en compétition dans le Mont Liban et, ou à Alep. Et il y a certainement une autre explication, c'est qu'ils ont bien appris le syriaque à Rome. Ils savent mieux écrire le syriaque après leur passage à Rome qu'avant. Et d'ailleurs, Rome publie des manuels pour l'apprendre. Chez les Syriaques, l'évêque de Damas, Ibn Khureyr, qui copie nombre de manuscrits syriaques et surtout les traduit en arabe, du syriaque en arabe, mais en caractère karchouni. L'évêque syriaque de Damas dit « On est convaincu par ce qu'a fait le patriarche Carmé, dont j'ai parlé tout à l'heure, patriarche des Grecs, qui a traduit dans la ville d'Alep tous les livres grecs en arabe, de sorte que toutes leurs églises prient avec ces traductions et les utilisent désormais, après que leurs scribes les ont recopiés, que le privé et le public en ont tiré bénéfice et que le savant et l'ignorant les ont connus, parce que la Syrie a échangé aujourd'hui la langue syriaque à laquelle elle doit son nom, par l'arabe, quand elle fut conquise par la Oumma islamique. Et ceci n'est dû qu'à la haine et au manque d'amour que nous avons les uns envers les autres et au peu de soucis que nous accordons à l'accomplissement de nos lois. » Donc ici, nous avons un commentaire qui dénote une forte conscience d'une identité fondée sur la langue. Et il est intéressant qu'il emploie les termes « Bilad Souria » pour désigner la Syrie, alors qu'à cette époque-là, on utilise normalement « Bilad Hashem », et qu'il met directement un rapport avec El Lurat Essouriania, en précisant que le pays tire son nom de la langue. Elle le dit Sumiyat Biha. Mais il fait aussi le constat que l'arabe a vaincu le syriaque par la conquête de la Oumma Islamiyya, due, dans une vision eschatologique traditionnelle, au péché des chrétiens. Donc l'arabe est perçu comme la langue des vainqueurs, le syriaque, celle des vaincus. Au moins dans ce milieu des syriaques orthodoxes, c'est certainement différent chez les maronites ou chez les melkites. Il reste encore quelque chose de cette perception, certainement, de nos jours. L'évêque Khureyr montre l'émulation qu'il a subie de la part des Grecs. Il cherche aussi à élever le niveau linguistique de son clergé en homogénéisant les textes en circulation. Donc, préoccupation qu'on trouve à ce moment-là dans toutes les églises. Et ce texte révèle un problème typique de l'église syrienne en particulier, sa grande dispersion dans une zone multilingue. Face à l'idéal d'une Syrie unie par la langue syriaque, la réalité est en fait beaucoup plus compliquée. Un de ses successeurs sur le siège de Damas à partir de 1731, qui est originaire d'Amid, donc de Diyarbakir, et qui est d'un milieu arménophone du Tour Abdin, en arrivant à Damas, donc cet évêque de cette région-là, voit les manuscrits syriaques à l'église empilés les uns sur les autres et laissés à l'humidité et à la ruine, dû au manque de lecteurs comprenant la langue syriaque. Ça, c'est en 1731. Et il écrit une invective dans laquelle il traite l'arabe, sans ambiguïté, de bâton de l'aveuglement, et rappelle la parole qui dit « L'arabe m'a pénétré et... » Moi, je ne sais plus ce qu'il dit. Et, ah oui, « L'arabe m'a pénétré et m'a dénudé ». M'a dépouillé. Bon, donc voilà un peu pour l'ambiance du XVIIe siècle. Vous voyez, il y a des contrastes. Ce n'est pas vécu de la même façon dans toutes les communautés. À partir du XIXe siècle, l'affirmation de la conscience confessionnelle, dans le cadre des idéologies nationalistes, fait de la question de la langue un enjeu essentiel. D'autant plus que ça s'accompagne de la diffusion du livre imprimé et de la scolarité pour tous. Donc, dans quelle langue va-t-on enseigner et imprimer les livres ? Dans le cas des maronites, le choix se porte sur l'arabe. Dès le XVIIe siècle, les maronites cultivés écrivent dans cette langue, traduisent des ouvrages de la théologie et de la spiritualité catholique en arabe. Et c'est aussi le choix que Rome fait dès le début, où on imprime en arabe pour une diffusion au Proche-Orient, avec l'argument que c'est la langue la plus universellement utilisée. C'est donc en arabe que les chrétiens orientaux reçoivent l'imitation de Jésus-Christ, par exemple. C'est en arabe que des maronites d'Alep traduisent les actes du Concile de Trente ou les exercices spirituels d'Ignace de Loyola. La pratique religieuse devient donc clairement diglossique, l'office en syriaque ou en grec, la lecture, la prière en arabe. C'est sans doute aussi sous l'influence des études grammaticales et lexicales européennes que des maronites et des melkites, surtout à Alep, se mettent à retourner à la tradition arabe classique, celle qu'a évoquée Pierre, pour y chercher les instruments d'une rénovation de l'arabe Foussa. dont va naître la langue de la Narda au XIXe siècle. Germanos Farrat, archevêque maronite d'Alep, est aussi le traducteur des exercices spirituels d'Ignace de Loyola et c'est l'auteur de la première grammaire et du premier dictionnaire arabe modernisé. Et ces gens-là puisent dans le patrimoine classique islamique, par exemple l'élégie, la qasida, la forme traditionnelle de poésie du Moyen-Âge, ils vont l'utiliser, mais cette fois ils vont écrire des qasidas pour le Sacré-Cœur de Jésus ou pour la Vierge Marie. Donc, c'est dans ce milieu-là aussi qu'est fondée l'école de Ayn Warqa par le patriarche maronite au Liban, où vont être formés les premiers héros de la Narda arabe, comme Boutrous el-Boustani ou Ahmed Faris Chidiac. Tous les deux, il est intéressant que beaucoup de ces personnages ont rompu avec leur église maronite pour se convertir au protestantisme. Ils vont s'intéresser aux œuvres scientifiques européennes en même temps qu'à la tradition arabe classique. Alors la question du caractère islamique, coranique ou non de la langue arabe va revenir dans ce contexte. Boutrous Boustany, dont je viens de parler, est un fameux lexicographe, donc maronite converti au protestantisme, qui contribue fortement à la modernisation de la langue arabe et à la conscience identitaire arabe au temps de la Narda, notamment dans son encyclopédie Mouhit el-Mouhit. Il fait remonter à la terminologie biblique des mots arabes clés, rompant ainsi avec la tradition lexicographique arabe qui suivait les conceptions islamiques évoquées plus haut, et qui faisait du Coran la source presque exclusive de la lexicographie. Donc il reste fidèle aux méthodes lexicographiques classiques arabes, mais il affirme en même temps les origines bibliques de la civilisation arabe. Avant de travailler à son encyclopédie, Boustany a été un des collaborateurs des missionnaires protestants qui ont élaboré la fameuse Bible arabe de 1865, la Bible qu'on appelle la Bible de Van Dyck, du nom d'un missionnaire resté célèbre dans l'histoire du Liban et de la Syrie, missionnaire protestant. Cette Bible de Van Dyck a été diffusée de 1860 à 1923 en 2,2 millions d'exemplaires, puis de 1923 à 1935 encore plus de 2 millions d'exemplaires. Elle a été en quelque sorte canonisée et elle est devenue la Bible officielle des coptes orthodoxes, catholiques et protestants, ainsi que des grecs catholiques d'Antioche, sans qu'on sache pourquoi et comment, par quelle procédure elle a été canonisée, mais c'est devenu la Bible officielle de ces églises. Et comme dit David Grafton, qui a écrit un livre récent sur cette Bible arabe, les traducteurs en ont donné à cette Bible un statut historique similaire à la King James Bible en anglais, en particulier à cause de son antiquated Arabic style, son style arabe antiquisant. Donc l'arabe de cette Bible est devenu une espèce d'hiéroglosse. Les traducteurs de 1865 voulaient produire un arabe standard de haute qualité. Ils ont réussi en effet à le répandre largement des générations entières en ayant appris les passages par cœur. Le Notre Père de cette version de la Bible a été récité par cœur pendant un siècle et demi. Alors le caractère désuet de la langue de cette Bible, qui ne correspond pas à l'arabe standard vernaculaire d'aujourd'hui, a fait grincer des dents pas mal de missionnaires, notamment de missionnaires protestants, qui ont eu des projets de faire des traductions alternatives. Mais en réalité, c'est ce langage particulier de la Bible de Van Dyck qui apparaît souvent de nos jours comme une langue sacrée attestant le caractère révélé du livre. Donc, bien que la révélation ne soit pas conçue de la même façon dans le christianisme que dans l'islam, on voit ici le parallèle avec l'attitude musulmane envers le Coran. Changer cette traduction apporterait de nouveaux arguments à l'accusation islamique envers les chrétiens accusés d'avoir corrompu la parole divine. Dès l'ouverture du chantier de cette traduction arabe de la Bible, la question de la relation à l'islam s'était posée. Le promoteur du projet, qui était Eli Smith, dut se confronter au dilemme d'utiliser un arabe classique pouvant apparaître comme divinement révélé, y compris par des érudits musulmans, donc proche de l'arabe enseigné par les sciences du Coran, ou adopter un arabe dialectal pouvant être adressé oralement à des illettrés. Il a décidé d'opter pour un arabe coranique modernisé, susceptible d'inspirer le respect aussi bien aux catholiques qu'aux orthodoxes, mais avant tout, il visait l'acceptabilité du texte par les musulmans. Donc, il voulait en faire une espèce d'équivalent du Coran. Néanmoins, la question se posait du recours à une terminologie coranique pour traduire des termes hébreux ou grecs. Par exemple, le Yahvé. Fallait-il le translittérer ou utiliser le mot coranique « reb » Dans le Nouveau Testament, garder le grec « théos » ou prendre le mot « Allah ». Dans les deux cas, c'est l'option de la traduction qui a été choisie. Donc on a pris « Rab » et « Allah ». Et en réalité, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une terminologie très ancienne dans le christianisme de la région. Les chrétiens de la région avaient fait ce choix déjà bien avant. Et d'ailleurs, Elie Smith avait quand même pris la précaution de rassembler différents manuscrits bibliques en arabe pour préparer sa traduction et donc de s'inspirer de cette tradition biblique arabe. Cette question du regard que les musulmans allaient porter sur la traduction protestante est restée centrale durant toute la phase d'élaboration de cette Bible de référence. Dans un premier temps, donc, il y avait des collaborateurs chrétiens des missionnaires, comme Bousteni et Yazigi. On va les écarter, et c'est un musulman, Youssef Asir, un cher musulman formé à El Azhar, par ailleurs à la tête d'un mouvement réformiste musulman à Beyrouth, qui sera employé en tant qu'expert linguistique pour terminer la version de cette Bible. Donc voilà un peu pour cette Bible arabe. La langue syriaque au XIXe siècle connaît aussi des transformations, on en a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas en parler davantage. La question lancinante de la place respective de l'arabe ou d'une autre langue et du syriaque reste posée aujourd'hui dans les églises qui utilisent le syriaque comme langue liturgique. L'attachement à la langue d'origine constitue un élément central dans ce qui a fait l'identité chez les chrétiens orientaux, notamment de la diaspora. Aujourd'hui, les chrétiens dans la diaspora sont plus nombreux que les chrétiens du Proche-Orient. Donc d'importants efforts doivent être entrepris pour maintenir l'apprentissage de la langue dans les pays d'exil. Chez les Syriaques et les Assyro-Chaldéens, la langue commune est devenue le socle d'une identité ethnique qui serait commune aux deux chrétientés, pourtant opposées depuis le concile de Chalcédoine. Donc il y aurait une communauté ethnique assyro-chaldéenne dont l'origine est ancrée dans la haute Mésopotamie, mais à côté de ça, il y a une autre version d'une communauté araméenne qui peut inclure les Maronites ou, par exemple, la minorité araméophone melkite du Kalamoun au nord de Damas, où on dit que les gens parlent la langue du Christ et récitent le Notre Père dans la langue du Christ. Invention aussi du XIXe siècle, d'ailleurs. Bon, les conceptions linguistiques et les outils d'apprentissage forgés dans l'émigration peuvent, dans ces conditions, faire retour au Proche-Orient. Il y a une minorité maronite en Israël qui a la citoyenneté israélienne, mais vous comprendrez que ce n'est pas facile d'être citoyen israélien pro-palestinien en étant arabe. Donc ils en sont un peu fatigués et depuis quelques années, ils développent un araméisme pour se démarquer de l'arabisme palestinien et aussi pour revendiquer une antécédence dans le pays, même sur les juifs. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés s'adresser à la diaspora syriaque de Suède pour se doter des outils nécessaires pour s'araméiser. La question linguistique est compliquée par le fait que cette notion de langue d'origine est complexe et contradictoire. Chez tous les chrétiens du Proche-Orient, le multilinguisme est la norme, y compris dans les célébrations liturgiques. Dans des pays comme la Syrie et l'Irak bassiste ou l'Égypte post-nassérienne, le recours à l'arabe est requis officiellement pour affirmer son appartenance nationale. Mais après, il faut évidemment décider du registre d'arabe qu'on veut utiliser, l'arabe classique, Fusha ou Amiyyah, dialecte arabe. C'est généralement la première version qui est utilisée dans la liturgie, mais la seconde fait résurgence dans le paraliturgique. Les Syriaques peuvent être de langue maternelle araméenne, mais ils peuvent aussi être kurdes, arabes ou turcs de langue. D'autre part, il y a la différence entre l'araméen parlé, qui s'apparente plutôt à un dialecte, variant d'un village à l'autre, matiné de mots empruntés aux autres langues pratiquées, et très éloigné de la langue écrite et liturgique réservée au clergé, dont on a parlé tout à l'heure. Donc cette dernière est considérée comme plus pure et plus authentique, et ce sont les valeurs qui sont recherchées en priorité chez les émigrés. Chez les Maronites, la composante arabe de leur identité ne va pas de soi pour ceux qui vivent au Liban, et encore moins pour ceux qui se retrouvent citoyens israéliens en Galilée ou qui sont émigrés en Amérique, en Europe ou en Australie. Et chez tous ces gens-là, c'est plutôt le syriaque ou le néo-araméen qui est alors considéré comme la langue identitaire ou originelle. Mais la plupart de ces chrétiens sont rattachés au catholicisme, le Vatican tient à l'usage de l'arabe chez eux, car cette langue ne les coupe pas des autres chrétiens orientaux de la région et leur permet d'assurer le rôle de pont en direction des musulmans que Rome souhaiterait le voir jouer, mais que justement certains n'ont pas envie de jouer. Le document programmatique du synode patriarcal maronite publié il y a quelques années affirme que, à l'instar de tous les émigrés, les maronites ont emporté dans les nouveaux pays leur langue arabe et ils y sont attachés, en tant que partie du patrimoine les rattachant à la mère patrie et en tant qu'identité qu'ils refusent de perdre. Ils ont continué à la pratiquer à la maison et dans les occasions familiales et sociales. Ils l'ont enseigné à leurs enfants et se sont réjouis de l'entendre à l'église à côté du syriaque, comme c'était l'habitude dans leur village. Mais avec le temps et la succession des générations, la langue arabe a commencé à perdre du terrain parmi les émigrés. D'ores et déjà, l'arabe n'est parlé ou compris que par un nombre restreint de personnes, ce qui place l'église maronite face à un problème linguistique qui se complique d'année en année. Il s'agit là d'un problème qui demande une étude globale pour parvenir à des décisions courageuses. En effet, la langue syriaque est la langue liturgique et un élément essentiel qu'il importe de préserver autant que faire se peut, alors que l'arabe n'est qu'une langue vernaculaire propre aux immigrés qui se voit inévitablement supplantée en dehors du territoire patriarcal par la langue locale du pays d'accueil en usage dans les prières. Texte de 2008. Notez que cette déclaration fait écho au débat que les années précédentes ont marqué la préparation du nouveau missel maronite. Celui-ci, paru en 2005, fait la place belle à l'arabe Fusan, le syriaque, y apparaissant en complément. Il n'en demeure pas moins que l'identité syriaque est de plus en plus revendiquée par les maronites, et notamment par ceux qui sont en exil, et on comprend très bien, par exemple, qu'après le 11 septembre, il valait mieux se présenter comme syriaque que comme arabe. Un chauffeur de taxi de Montréal m'a raconté que l'image du Charbel Marlouf qu'il avait sur la vitre de la voiture l'ont fait prendre pour un terroriste. Ils ont cru que c'était un portrait de Ben Laden. Je m'arrête là-dessus.